Bonjour et bienvenue sur Vivre et Nourrir, le podcast qui s'intéresse à la prise de décision en agriculture, ou comment les acteurs du monde agricole font leurs choix, se forment, se font accompagner, ou s'aident d'outils pour prendre les meilleures décisions. L'installation en collectif intéresse de plus en plus de porteurs de projets agricoles, mais peut aussi faire peur, notamment aux structures d'accompagnement, car derrière le mot de collectif se cache une multitude de réalités. GAEC, EARL, SCEA, GFA sont des structures collectives très répandues dans le monde agricole, mais on n'y associe pas forcément le mot de collectif. Le mot de collectif peut être associé derrière à des fermes de bobos communautaires où l'anarchie règne. Mais pour moi, s'installer en collectif en agriculture, c'est prendre conscience qu'on produit à la fois des produits agricoles, mais aussi des liens, des relations entre les acteurs du projet collectif et avec le territoire. C'est conscientiser ces liens et travailler dessus comme on travaille sur la production agricole, sur l'entretien du matériel, etc. Et comme il y a des techniques de culture et d'élevage, il y a des techniques, des approches pour structurer et pour faire vivre une aventure agricole collective. Et comme il y a différents types d'agriculture, il y a différents types de collectifs aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Fin février 2023, les fermes partagées et l'association La Jardinière organisaient des rencontres intercollectifs agricoles sous le thème de collectif agricole accompagnons-nous, dans l'idée de rassembler des structures d'accompagnement et des collectifs agricoles et de les faire échanger sur ce que ça voulait dire aujourd'hui de travailler en collectif agricole, tant sur les statuts juridiques que sur le mode de communication, que sur la production, que sur la rémunération. Et je vous livre certains extraits captés pendant ces trois jours denses, riches, incroyablement bien organisés, c'est la force du collectif. Alors vous verrez, c'est pas de la prise de son en studio, c'est de la prise de son dans des salles, dans des corps de ferme, avec plein de gens qui parlent autour. Donc parfois le son est de moins bonne qualité que si ça avait été de l'interview en direct. Mais vous l'entendrez, les sujets sont très variés et les gens passionnés. J'avais très envie de partager les captations de ces trois jours parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été exprimées là, qui peuvent intéresser des fermes, des acteurs agricoles, qui ne s'identifient pas forcément comme dans un collectif ou comme travaillant en collectif, parce qu'on parle de communication, on parle de lien entre acteurs d'un projet, on parle de rémunération du temps de travail, on parle de lien avec les acteurs locaux, on parle de structuration juridique, et c'est riche d'enseignements. Pour commencer, je vous propose une rencontre avec Maëla Naël, qui, après avoir accompagné pas mal de projets agricoles en Île-de-France, s'est reconvertie elle-même dans un projet collectif et a fait tout un travail de documentation de ce que ça voulait dire l'installation en collectif. Et on a sorti un livre et elle nous présente son parcours et ce qui l'a amené à construire ce livre et ce qu'on peut trouver dans ce livre.
Donc, je suis Maëla Naël. J'ai travaillé dans l'accompagnement à l'installation et je me suis formée sur l'accompagnement des collectifs agricoles en agriculture. À la fin de cette expérience, j'ai commencé à réfléchir avec des amis à un projet d'installation collectif et en parallèle, j'ai aussi écrit un livre sur les fermes collectives qui s'appelle « Fermes collectives, le guide très pratique » édité dans la collection Terragora dans les éditions France Agricole. Et en fait, ce qui m'a motivée à écrire ce livre, c'est le constat avec mes collègues d'Île-de-France de l'accompagnement à l'installation qui avait une assez forte inadéquation entre les fermes à reprendre et l'offre en fait de foncier et les porteurs de projets non issus du milieu agricole qui arrivent avec des imaginaires construits autour du maraîchage, de l'autonomie, de la plus petite surface possible. Et c'était assez frustrant de se rendre compte qu'en fait, on ne trouvait pas de porteurs de projets pour des fermes de taille moyenne et qu'en parallèle, c'est les porteurs de projets qui cherchaient plutôt des fermes en maraîchage parlaient tout le temps de la pression foncière. Donc voilà, il y avait un peu un problème à ce niveau-là. Et en fait, on a, avec ses collègues, visité des fermes collectives, on a été enthousiasmés. Et puis en fait, moi, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, ah, on a une possibilité, en tout cas une façon de répondre à cette inadéquation. Et à travers des visites, des rencontres, j'ai décidé d'écrire ce livre. Et en fait, toute la première partie du livre, elle aborde justement ces questions plutôt d'ordre politique et qui mène à la fois, enfin, qui nous emmène à pourquoi les fermes collectives, c'est intéressant. à la fois, bon, c'est pas nouveau, il y a aussi toute une histoire de l'agriculture de groupe qui vaut le coup d'être regardée, donc j'ai un peu fait un petit résumé là-dessus. Et puis après, sur les fermes collectives en tant que telles, j'ai tenté des éléments de définition et puis montrer à quel point elles sont des réponses pour la transition agroécologique, ce qu'elles apportent sur la question du renouvellement des conditions du travail agricole, donc des conditions de travail. Et la troisième dimension qui me semblait importante à mettre en avant, c'est la capacité qu'ont les fermes collectives à créer du lien, à être des sortes de carrefours en fait, entre différents mondes, ruraux, urbains, différentes classes sociales, etc. Et voilà. Et c'est autour de ces points-là c'est ces points-là que j'ai développé. Et dans une deuxième partie, donc le livre, c'est à peu près la moitié le blabla sur les fermes collectives, et l'autre moitié, c'est le guide pratique, où en quelques chapitres, j'aborde, et à partir d'exemples concrets, j'aborde comment on construit un groupe, comment on constitue un projet commun, quelles règles on se donne, comment faire pour durer, comment mettre fin à un projet collectif aussi, et comment se faire accompagner. Et j'ai listé à ce propos, de façon la plus large possible, mais sûrement pas tout à fait exhaustive, toutes les personnes et associations, structures qui accompagnent sur cette thématique précise qu'est les fermes collectives en France. Donc dans tous les départements, j'ai essayé de recenser les acteurs, parce que c'est pas toujours les mêmes selon le département. Et voilà.
Les fermes collectives, telles que présentées par Maëlle Anaël, peuvent prendre des formes très variées. Mais au cours de ce week-end de travail et de réflexion, les formes coopératives telles que les SCOP, les SIC, les CAE ont occupé une grande partie des discussions. Ces formes d'entreprise sont aujourd'hui des outils intéressants pour formaliser l'existence de projets collectifs, souvent hybrides, pour formaliser aussi la mutualisation de ressources et de moyens, mais aussi pour proposer une alternative au statut de chef d'exploitation agricole non salarié. Je vous propose cette interview de différents producteurs engagés dans des SCOP ou des SIC agricoles, conduite avec Floris Schreuer et Céline Riolo. Pour commencer, qu'est-ce que c'est une SCOP ?
Alors Médéric, moi, je suis associé à la ferme de Chalonne en Nord-Isère, donc sur des activités céréales, poules pondeuses, accueil pédagogique et pain. On est une SCOP à 7 associés. Et donc, qu'est-ce que c'est une SCOP ? Une SCOP, c'est quand même avant tout un statut administratif, quoi, un statut juridique. Donc SCOP, c'est pour Société Coopérative Ouvrière de Production. Et donc, la SCOP, ça apporte, on va dire, des contraintes sur la manière dont on va gérer notre ferme, quoi. À la base, c'est un statut qui a été créé plutôt pour des entreprises industrielles et tout ça, avec pour but de vraiment l'esprit coopératif, quoi. C'est-à-dire que la contrainte de la SCOP, c'est qu'elle doit être possédée à la majorité par ses salariés. Donc ça implique d'avoir des salariés, ce qui est déjà assez inhabituel pour le monde agricole classique, en tout cas pour les personnes qui sont associées sur les fermes. Et l'autre contrainte un peu de la SCOP, c'est que tout l'argent, tout le bénéfice qui est généré par l'activité doit être réparti en différentes clés de répartition, mais du coup, il y a forcément une partie de l'argent qui revient à un salarié, donc dans les bénéfices de l'année, une partie de l'argent qui reste dans la structure et qui sert à, on va dire, à pérenniser l'activité. Donc vraiment, la spécificité de la SCOP par rapport à d'autres statuts agricoles, ça veut tout dire qu'on vient valoriser le travail et pas le capital que les gens peuvent mettre dedans, quoi. C'est décorréler un peu ces deux choses-là. En permettant aux gens d'être à la fois salariés et associés de leur structure.
Et quel est l'intérêt d'avoir un statut en SCOP pour une activité agricole ?
Eh bien alors, moi c'est Lucie de la coopérative paysanne de Belette. On est en SCOP depuis 2015, donc sur une ferme située en Indre-et-Loire avec des céréales, de la boulange et du maraîchage. Nous on s'est posé la question en fait dès le départ à l'installation de la transmission, en fait, et de renouvellement des générations en agriculture. Et on s'est dit que la SCOP, là, ça pouvait être une bonne entrée en matière, en se disant que finalement l'outil de travail au fur et à mesure n'appartient pas forcément À des personnes, mais l'outil de travail appartient à la SCOP et les personnes qui viennent travailler sont salariées sur un temps donné et repartent avec en laissant la place à d'autres salariés, en rendant leur tablier et en laissant la place à quelqu'un sans qu'ils doivent racheter l'outil de travail. C'était par rapport au fait que cet outil de travail, en rachetant une partie. En rendant une partie des parts sociales, mais comme le capital, comme a dit Médéric, il y a une partie du résultat qui, chaque année, reste dans la structure. Et ce résultat et ce capital est impartageable. C'est quelque chose qui reste dans la structure. Au pire, si la SCOP s'arrête un jour, elle devra être transmise à une autre SCOP, voire à une association. Mais on ne peut pas repartir avec une partie de l'outil de travail créé par le travail. On repart avec une cotisation plutôt salariale et patronale, puisqu'on est salarié. Et on a choisi ça plutôt pour miser sur une retraite par répartition plutôt qu'une retraite par capitalisation. C'est-à-dire qu'à la fin de la... On participe à la répartition comme les autres salariés et on revend pas une part de la ferme. Je sais pas si ça répond.
Et au-delà de cet outil, du coup, de la vision un peu politique de la SCOP, ce qui a fait que nous aussi, on s'est retrouvé vers cet outil-là, on va dire, au niveau plus pratique, c'est aussi un outil de stabilisation et de pérennisation des activités. Parce que nous, par exemple, le fait de passer en SCOP, avant, on était dans un statut GAEC, donc exclusivement à destination agricole, qui était plus avantageux sur certains points de vue, mais aussi plus contraignant. Et du coup, le passage en SCOP nous a aussi permis de pouvoir diversifier nos activités. C'est-à-dire que, par exemple, en SCOP, on peut intégrer un magasin à la ferme, faire de l'achat-revente de produits, de fermes voisines et tout ça, ce qui n'est pas possible, par exemple, en GAEC. Ça permet aussi d'intégrer des activités qui soient un peu extra-agricoles et de diversifier un peu le champ de ce qu'on fait, ce qui n'est pas possible sous les autres statuts, quoi.
Pas en GAEC, mais dans d'autres statuts agricoles quand même. Si.
Mais aujourd'hui, beaucoup d'exploitations agricoles dépendent fortement des aides et ça peut poser problème avec les SCOP.
Du coup, moi, c'est Camille de la ferme du Courtil de Quincieux. Donc là, on est en tout début d'association, donc on commence tout juste le parcours pour s'associer. Et on est plusieurs, du coup, à avoir la possibilité d'avoir les aides à l'installation. Et le problème avec, enfin, quand on est en SCOP, on ne peut pas prétendre à la DGA parce que du coup chef d'exploitation, merci, au niveau de la MSA. Et donc du coup, ce qui fait que on n'est pas reconnu en tant que chef d'exploitation, alors qu'on est quand même gérant de la société, ben, on peut pas prétendre aux aides à l'installation jeune agriculteur, alors que ça reste quand même une aide substantielle. Enfin, moi, je sais que j'ai pas forcément beaucoup d'argent personnel à pouvoir investir dans la ferme, et puis aussi pour parfois avoir les banques qui suivent le projet, le fait d'avoir la DGA. Donc du coup, la chambre d'agriculture qui nous suit sur notre projet, ça peut aussi permettre de faciliter les démarches. Et donc du coup, ce qui n'est pas possible en SCOP actuellement, alors qu'on fait, gérant salarié, on fait le même travail que si on est un chef d'exploitation en tant que tel, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est quand même assez dommage de pas pouvoir tendre à un modèle qui nous intéresserait personnellement par rapport à tout ce que ça implique et d'être obligé de se mettre dans une case agricole classique comme le ARL, le GAEC. Et du coup, ça fait qu'on fait des montages un peu, on va commencer par faire peut-être une ARL pour dans 4-5 ans, une fois qu'on aura eu nos DGA, pouvoir peut-être ouvrir une SCOP. Donc ça retarde d'autant plus finalement le fait d'ouvrir cette structure, sa structure en coopérative.
Et sur des fermes déjà bien établies, la question des aides et du statut coopératif reste un vrai enjeu.
Moi, c'est Vincent, je suis paysan à la ferme de Sainte-Luce, c'est dans le sud Isère. Et donc ça fait 22 ans qu'on existe et aujourd'hui, il y a 22 travailleurs et travailleuses sur la ferme. On sait, nous, constituer en schéma classique avec deux structures, une structure agricole, un GAEC, et une SARL puis une SAS de boulangerie. Ce qui apparaît au travers des échanges, c'est que l'agriculture a ceci de particulier qu'elle est gourmande en capitaux. Si vous avez un bâtiment d'élevage, si vous avez du matériel agricole, si vous avez du troupeau, des outils de transformation, c'est vite gourmand en capitaux. Et donc, il faut pouvoir amener ce capital. Et ce capital, en effet, il est notamment acquis grâce aux dotations jeunes agriculteurs. Et c'est là où ça percute, parce que le status quo ne le permet pas. Il y a aussi un deuxième point qui concerne les subventions agricoles, puisque pour beaucoup d'exploitations agricoles en France, le modèle économique tient parce qu'il y a des aides à la production. Et par exemple, sur la ferme de Sainte-Luce, on a l'ICHN, qui est l'indemnité compensatoire de handicap naturel. Et le statut GAEC, pour nous, fait qu'on est considéré comme trois exploitations regroupées. Et ces trois exploitations regroupées nous permettent d'avoir cette subvention ICHN multipliée par 3. Et l'impact sur la ferme de Sainte-Luce, puisque si on change de statut, on n'aurait plus le droit à avoir cette subvention multipliée par 3. C'est-à-dire que la perte serait de 50 000 euros à peu près. Donc ça vient forcément impacter notre capacité à surmonter ça. Et en plus, on pourrait imaginer d'arriver à surmonter le fait de ne pas avoir de DGA, parce que nous, on a une ferme qui tourne. Si on diminuait le capital de la ferme, il y a des outils pour ça, et rendre la part plus accessible pour les nouveaux entrants. Mais ça nécessite aussi, si on passe en scope, que les jeunes agriculteurs depuis moins de 5 ans qui ont bénéficié d'une DGA renoncent à leur DGA et la rendent. Et donc, on bute là-dessus aujourd'hui à la ferme de Sainte-Luce.
Ces différences de statut et cette non-reconnaissance actuelle des SIC et des SCOP comme des sociétés agricoles à part entière pour certaines aides amènent souvent les producteurs à cumuler différents types de sociétés, notamment par rapport à la dotation jeunes agriculteurs.
Lucie, de la ferme de Belette... Effectivement, quand on est associé gérant d'une SCOP, on n'est pas considéré comme chef d'exploitation. Donc, on n'a effectivement pas cette transparence GAEC. Et on n'a pas les mêmes aides. Et on a presque l'impression d'être en concurrence déloyale d'un certain côté. C'est-à-dire que nos coûts de production, ils ne sont pas les mêmes que dans d'autres fermes, puisqu'on n'a pas le crédit d'impôt bio, on n'a pas le... on a des cotisations sociales plus importantes. Et du coup, nous, effectivement, on s'est décidé avant nos 40 ans à rajouter une structure GAEC à notre ferme et de pouvoir bénéficier des DGA pour assumer des investissements qu'on pouvait pas faire de manière individuelle. On va essayer effectivement de garder au maximum les principes et les valeurs qu'on mettait dans le status quo dans une coquille qu'on appelle un peu qui serait le GAEC, mais en essayant que les personnes n'accumulent pas du capital au fur et à mesure des années pour que la transmission reste possible avec une faible part sociale en fait. Donc nous, on a choisi la stratégie de doubler avec un GAEC la structure et de garder aussi la SCOP pour l'activité de boulange et l'activité de formation ou autre dont parlait Médéric, qui ne rentre pas forcément dans les statuts GAEC.
Alors, moi, ce que je souhaite dire, c'est que SCOP, GAEC, SAS, tout ça, ce sont des structures juridiques. Mais ceci dit, on peut quand même s'en extraire au quotidien dans la gouvernance de nos projets. C'est-à-dire que, par exemple, nous, à la ferme de Sainte-Luce, on ne réévalue pas la valeur de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais en tout cas, c'est un fonctionnement et ce n'est pas classique sur une entreprise capitalistique. Également, on ne rémunère que les heures de travail. C'est un fonctionnement qui va vers la SCOP alors qu'on est sur des statuts classiques. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de statut idéaux et qui permet d'avoir tous les avantages. Nous, si on est attiré par le status quo, c'est pour assurer la transmission voilà, la transmission de part sociale et permettre de notamment d'avoir un ticket d'entrée qui soit moins élevé.
Moi, je rejoins Vincent là-dessus, parce que l'enjeu du monde agricole actuel, il est là, il est dans la transmission. Les fermes, elles sont de plus en plus grosses, avec de plus en plus de capitaux. On en arrive au moment où, en fait, ces fermes sont irreprenables. Et du coup, il y a un peu différents modèles qui se tirent la bourre à ce niveau-là. Et du coup, si on veut garder une agriculture paysanne et tout ça, ça passe, en tout cas pour moi, par des fermes collectives. Et actuellement, les statuts collectifs, ils sont assez limités. Et donc, c'est comment on fait en sorte de maximiser les chances que des collectifs puissent s'installer. Et du coup, en maximisant les chances que les collectifs puissent s'installer, c'est en ayant le plus de choix possible dans les manières de faire, dans les manières de s'installer. Et notamment, la SCOP, elle permet ça. Elle permet de séparer le capital du travail. Elle permet d'avoir des structures qui soient transmissibles très facilement, parce que l'impasse dans laquelle on est actuellement, bah, du coup, elle ne va pas se résoudre, elle va pas se résoudre toute seule. Donc, il faut qu'il y ait du monde qui s'installe. Il faut que les politiques publiques, elles aillent dans ce sens-là et qu'on permette à plein de formes collectives d'agriculture d'exister en parallèle, quoi. Donc, c'est pour ça que on demande à ce que on va dire que actuellement c'est le statut GAEC qui est un peu le plus avantageux dans l'agriculture, et ben essayer de répandre un peu ça, d'aller vers le haut, de permettre que les SCOP aient accès aussi à ces aides-là, qui soient la DGA, la transparence des aides et tout ça. Donc il y a un travail de plaidoyer qui est en cours par différentes structures comme la Confédération Paysanne, les fermes partagées et tout ça, pour essayer de faire changer un peu les choses, parce que l'enjeu derrière, il est là, il est dans quel modèle agricole on veut demain. Et si on veut que le modèle il soit paysan et collectif, ben, il faut que les statuts puissent le permettre. Et actuellement, on est bloqué par des bêtes conditions de statut, alors qu'il y aurait du monde qui voudrait s'installer. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas permettre à plus de porosité en fait, entre le monde actuel, parce qu'en fait, le renouvellement agricole, il s'est fait beaucoup par les transmissions familiales. On n'est plus dans ce cadre-là, et c'est comment on réussit à attirer du monde qui ne soit pas des personnes issues du milieu agricole vers les statuts, vers des activités agricoles. Bah, c'est avec ces statuts un peu poreux, SCOP, où du coup, on a un statut salarié, on a du coup des choses qui parlent à des personnes qui ne viennent pas de ce milieu-là. Et voilà, et c'est vers ça qu'on souhaite aller, quoi.
Je compléterais Médéric en disant que la SCOP, c'est aussi c'est un sens derrière, un sens politique, dans le sens où tout simplement une subvention, nous on a eu un cap SCOP, c'est-à-dire que pour tout euro mis au capital, la région a mis un euro au capital sous la limite de 15 000 euros. Finalement, on a eu 15 000 euros de la région qui a été apporté comme soutien à la structure, mais qui ne repart pas dans les poches des personnes. C'est-à-dire que c'est durable dans le temps. Ça, alors que quand il y a une aide, il y a beaucoup d'aides de subventions au montage d'un bâtiment où l'État va prendre 40% du bâtiment en charge, finalement, cet investissement, par rapport à cette subvention, cet investissement de l'État dans l'économie, elle peut repartir directement dans la personne du cédant, et la personne doit racheter finalement le bâtiment, et la personne qui va vendre le bâtiment, je ne crois pas qu'elle va extraire la subvention qu'elle a eue pour le construire. Enfin, je me pose la question. Et finalement, on se dit que la subvention est d'autant plus efficace si elle est à une SCOP, c'est-à-dire que du coup, elle n'a pas à être remise en jeu à chaque fois. Et aujourd'hui, comme disait Vincent, les capitaux et tout ce que brasse une ferme et le nombre de subventions qu'il y a pour acquérir ces capitaux, après, on le revend. Et puis, en génération, on se les revend. Et ça questionne beaucoup sur le renouvellement des générations agricoles.
Derrière cette interview, on voit que les cycles, les scopes, c'est une question de statut, mais c'est aussi une question de choix, de modèle agricole dans lequel on a envie de s'inscrire, de choix politique parfois, de modèles de gouvernance, de modèles de rémunération, de choix de transmission et de choix collectifs. Et donc, à la suite du week-end, il y avait de nombreux ateliers sur les choix économiques, sur la gouvernance, sur le fonctionnement du collectif, sur pourquoi on était là, et notamment un premier atelier sur choix individuels, choix collectifs. Car quand on n'est plus dans une exploitation familiale, quand on veut s'inscrire dans le collectif, il y a la question de: quelle place, moi, en tant que salarié, entrepreneur, en tant que producteur, en tant que paysan, en tant qu'exploitant, selon les termes qu'on préfère, Quelle place je prends dans le collectif, comment mon projet s'inscrit dans le collectif, comment le collectif respecte mon projet. Et c'est ce qu'on va voir maintenant.
Moi, ça me pose la question sur l'épanouissement des personnes. Chez nous, on en parle assez peu de l'épanouissement individuel. Enfin, tu vois, c'est pas une question qu'on traite collectivement. Chacun se débrouille en fait un peu pour son épanouissement individuel, avec ses envies, ses désirs. Et du coup, soit tu vas aller chercher par du militantisme à l'extérieur, soit tu vas le chercher par les activités extra, tu vois, en dehors de la ferme, ou en tant qu'habitant du lieu. Mais en tout cas, moi je m'étais demandé si on devait remettre au centre de ce que, de comment on planifie les nouvelles activités ou comment les priorités de travail ou les priorités du lieu, est-ce qu'on devrait remettre au centre, repartir des envies de chacun et se dire bon bah il faut qu'il y ait au moins un minimum de place pour que chacun bosse sur des envies ou des désirs, même s'ils ne sont pas considérés comme absolument indispensables par les autres. Je m'étais demandé du coup si chez toi, s'ils ne sont pas considérés comme indispensables par les autres. Enfin, tu vois, en gros, nous, on fait du pain, des légumes, des fruits, de la farine. Moi, je sais que ce qui m'anime, c'est l'espérance paysanne. On pourrait très bien faire sans. Mais et du coup, bah, est-ce que je le fais quand même, sachant que les autres, je ne sais pas qu'ils s'en fichent, mais en tout cas, c'est moins important ou ça ne résonne pas pareil. D'autres, une collègue qui, à un moment, avait envie de faire des plants, tu vois, de la pépinière. Tout le monde s'est dit, oh là là, plastique, terreau, machin. Personne n'était enthousiaste. Et du coup, comment on arrive à s'enthousiasmer pour l'envie de l'autre, ou en tout cas soutenir cet enthousiasme-là et y laisser de la place. Est-ce qu'on donne de l'autonomie aux gens pour qu'ils s'éclatent un peu avec un peu de temps et un peu de thunes, tu vois, dans leur année.
Dans un des collectifs, y a un truc de... Il y a le cœur du projet qui est avec des activités économiques viables qui font que tout le monde peut manger à la fin. Et puis, pour répondre à ce besoin un petit peu de... Ils ont fait des cercles d'autres activités. Alors, il y a le cœur principal, il y a les activités annexes mais qui font sens pour le collectif. Et puis, il y a encore un troisième cercle où les gens peuvent faire des choses qui leur tiennent à cœur mais dont ils parlent au collectif, où il y a validation quelque part du collectif mais qui reste quand même de leur propre... Et voilà, et ils ont un fonctionnement un peu comme ça. Alors, c'est pas... Il y a quand même des choses compliquées, hein. C'est pas si simple que ça. Et très souvent, ça revient à questionner le temps que tu passes. Dans l'idée, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir s'autoriser des choses un peu différentes avec des. Après, il faut bien poser les choses. Ça demande de bien le travailler, mais c'est pas complètement inintéressant.
Derrière ce mot de collectif, on voit une grande diversité de projets. Mais on voit aussi que dans les différentes phases d'un projet, dans les différentes phases de la vie, de la structuration, de l'évolution d'un collectif, de l'entrée et de sortie de membres, c'est quelque chose qui est mouvant. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en place et qu'on va pouvoir considérer comme acquis. C'est plutôt des méthodes, c'est plutôt des approches, c'est plutôt une sensibilité pour revenir régulièrement, peut-être constamment, se reposer la question du collectif et de s'assurer que le collectif évolue et qu'il est toujours en phase avec l'évolution des aspirations des membres du collectif ou des partenaires.
Ce que je trouve intéressant, nous, dans la phase où on est, c'est qu'on est... Justement, c'est pas défini, en fait, qu'est-ce qui est soin de soi, soin du collectif. On est encore dans cette phase d'arbitrage. On est plusieurs à pas vouloir être à temps plein sur la ferme parce qu'on a d'autres activités qui peut-être rejoindront la ferme derrière, mais ça nous paraît compliqué de l'imaginer aujourd'hui, enfin mettre de la complexité dans le projet collectif. Plus des envies de se dire qu'on a le droit d'être à 80% aussi en étant agriculteur. Donc c'est assez intéressant justement de cette phase de qu'est-ce qu'on met aujourd'hui et qu'est-ce qu'on met pas, d'un point de vue temps, mais aussi d'un point de vue structure juridique, à quel point on mutualise. Et l'autre question qui s'est posée, c'était qu'est-ce qu'on sort. Il y a notamment Julie là sur les PAM, elle voulait dire mais je veux faire une marque, peut-être que j'irai dans les pharmacies demain, donc ça fait aussi prendre plus de risques peut-être en termes sanitaires, etc. Donc c'est à la fois qu'est-ce qu'on met aujourd'hui et puis demain, est-ce qu'on sort des choses, comment on les sort, quelles sont les règles pour les sortir. Et du coup, nous on est vraiment dans cette phase de dire qu'est-ce qui est collectif, qu'est-ce qui est individuel et qu'est-ce qui prend soin de l'un ou de l'autre. On n'a pas encore la réponse, mais pour ça c'est cool d'être accompagné parce que ça permet d'être sûr que chacun peut s'exprimer.
Et on parle de collectif, mais c'est quoi le collectif? Est-ce que ça s'apprend de travailler en collectif? Le collectif, c'est de la relation. S'inscrire dans une démarche collective, c'est prendre le parti d'une organisation, d'une gouvernance partagée, qu'il faut définir. Mais tout n'est pas décidé non plus par tout le monde. Parce que sinon, en fait, pour chaque décision, pour acheter 3 pommes de terre ou pour faire l'entretien du tracteur, il faudrait lancer des assemblées générales. C'est pas du tout l'objectif. Tout n'est pas décidé par tout le monde, mais la question des modes de décision est clairement posée pour allier rapidité de décision, efficacité du travail et implication au juste niveau de tous dans les décisions. Ce qui ressortait d'un autre atelier sur justement c'est quoi le collectif et est-ce que ça s'apprend le collectif, les premiers éléments qui en ressortaient, c'était que pour que ça marche, il faut bosser l'humain, comme disaient les termes. Donc voyons ce que ça veut dire, travailler l'humain.
Moi, j'ai envie de dire d'un truc par rapport au collectif. Souvent, quand il y a des stagiaires ou des woofers qui arrivent, je leur dis, ben, peu importe les complications du foncier, de trouver des terres, les côtés économiques et tout ça, ce sera toujours l'humain qui va bloquer tout, quoi. Enfin, c'est vraiment le nœud du problème et il faut le bosser assez rapidement, comprendre comment les autres fonctionnent et passer du temps ensemble pour ça, quoi.
Voilà, pour nous, comment ça fonctionne, on est arrivé à 8. Après 2 ans, il y a eu un gros conflit. Enfin, justement, on était donc d'origine une bande d'amis. Donc, on a cherché pendant 4 ans en fait, un lieu pour vivre et travailler ensemble sur un même lieu. Donc, c'était ça le but, la motivation première. Et après, bah, voilà, c'est, quand c'est un groupe constitutif d'amitié, on n'avait aucune. On ne s'est pas du tout formé à la vie collective. On est arrivé, on était tous à fond, atelier maraîchage, parce que la ferme, c'était 4 hectares de maraîchage. Donc, tout le monde est parti là-dedans, mais en fait, il y en avait plein, ce n'était pas du tout ce qu'ils souhaitaient faire. Donc, voilà, rapidement, il y a eu un relationnel qui est devenu le point central en fait de l'activité avec des conflits, tout ce que tu veux, et donc ouais, on a dû, on a fait appel à des associations, notamment une Pivoine qui est en Creuse, qui sont des amis, ils nous ont proposé leur service, et puis c'était une intervention de 3 jours sur des thématiques, enfin voilà, c'était vraiment hyper intense, mais ils nous ont donné des outils de travail relationnel. Donc on a mis ça en œuvre dès la 2e année en fait. Première année c'était rien du tout et à partir de là on a appris. Voilà. Et puis on s'est contraint à le faire, à répéter, etc. Enfin, c'était des fois des mises en scène, hein, mais voilà, c'est nécessaire. Donc ça s'apprend complètement et puis comment, oui, il faut faire appel à des professionnels en fait, je trouve.
Pour que le relationnel fonctionne, il faut aussi qu'il y ait des temps de pause en fait dans ce moment-là. Et en fait, quand on travaille et qu'en plus on vit ensemble, il n'y en a pas des temps de pause. Donc, moi, c'est le constat que je fais, que j'ai l'impression que dans ces cas-là, il y a beaucoup de fois où ça ne marche pas à cause de ça, quoi. On est tout le temps les uns sur les autres. Après, il y a sûrement des exemples où c'est pas vrai. Mais voilà.
Bah après, dans l'autre sens, si tu fais que travailler ensemble et que tu n'habites pas ensemble, ce qui est mon cas avec mes collègues, ouais, j'ai plus de moments informels avec mes collègues. Enfin, le repas de midi, il n'est pas si informel que ça en fait. Et du coup, les pauses café, c'est du boulot, on parle que de taf. D'ailleurs, on ne les appelle même pas pauses, parce qu'en fait, c'est du calage, en fait, c'est du planning. Donc en fait, j'ai plus de moments informels, du tout. Il n'y a pas de... Très peu de moments où on ouvre une bouteille, où on va faire un jeu. Où... Et donc du coup, c'est ça que ça... C'est la difficulté que je vois, en fait, que j'ai circonscrit le relationnel avec mes collègues au travail.
Trouver le temps de travailler l'humain, de construire la relation sur le long terme, tant professionnel que interpersonnel, prend du temps et c'est pas toujours simple de le caser au milieu des journées de production, de vente et de tous les aléas. Les temps formels et surtout informels peuvent souvent passer à la trappe. Donc certaines fermes collectives ont choisi de structurer vraiment les moments d'échange.
Bon, à la ferme, on a un pilier relationnel, c'est le moment du repas quand même. On mange tous les repas tous ensemble, presque tout le temps, quoi, 95%. Vraiment, on prend un temps pour se rencontrer parce que c'est facile de vite manger un sandwich au bout du champ. Mais on prend vraiment un temps. On mange tous à midi, enfin, on se donne une heure. Et en fait, on fait une tournante de celui qui cuisine aussi. Donc, on prend une heure pour le collectif, pour cuisiner. Si on est plus de 10 personnes à table, alors il y a 2 personnes qui cuisinent pendant une heure. Et du coup, l'air de rien, ça fait une tournante et ça fait un lien avec tout le monde. Mais je suis d'accord avec toi aussi, c'est quand même un des piliers, mais on ressent un manque d'informel parce qu'on n'habite pas sur la ferme. Et les moments informels, on les prend quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent. On a créé un peu une sorte de moment d'intégration et on s'est fait une randonnée avec tous ceux de la ferme pendant une journée. On est allé au sauna et on s'est tous dit, mais en fait, on devrait le faire beaucoup plus souvent. Il y a une super ambiance, il faut qu'on organise un super athlète. Et le truc, c'est qu'on se dit qu'il faut faire ça, mais que notre boulot est déjà assez intense et notre vie de famille, parce qu'on a quasiment tous des enfants, est assez intense aussi et on a envie de la préserver. Et du coup, comment on arrive à caler tous ces moments qu'on a envie de prendre? Nous, par exemple, on fait une réunion avec le GAEC tous les 15 jours et on prend un temps météo. On fait un petit tour météo de chacun. Donc on essaye de dire avec quoi on vient, avec quelle émotion on vient, qu'est-ce qu'on a traversé dernièrement ce week-end et autres. Et on termine par une bonne chose qui vous attend dans la semaine, pour terminer par une note positive. Parce qu'au début, ils faisaient ça. Et en fait, au début, ça peut plomber le moral de la réunion. Donc, voilà, il y a tous des petits outils qui peuvent petit à petit comprendre comment l'autre fonctionne et pour coller les bougons. Et c'est bien de dégoupiller ça, en fait, tous les non-dits.
Nous arrivons à la fin de ce premier épisode consacré aux rencontres des collectifs agricoles en Rhône-Alpes organisées fin février 2023. Et on se retrouve dans un prochain épisode pour aborder d'autres questions techniques, économiques, gouvernance traitées au cours de ces rencontres. À bientôt.